Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 5-7 rieurs, certes, mais dont on aurait tort de sous-estimer la valeur journalistique, car sous nos airs détendus, vous pouvez avoir la certitude que chaque matin, dès 5h, c'est une équipe de professionnels aguerris qui vous accueille.
Ah oui, il est 5h42. Oh bah écoute, il règne une joyeuse ambiance.
J'ai pas de rappel des titres, hein. Merde, j'ai jeté le rappel des titres. Vite. Oui, moi je l'ai retrouvé, hein. Il était un peu couvert de café et de miettes de pépito, mais je l'ai retrouvé. Heureusement, Debout les copains, c'est aussi l'analyse d'un agrégé. Le grand débat national annoncé par Emmanuel Macron arrive, un genre de consultation qui est loin d'être une première. Celle-ci peut-elle changer le cours de l'histoire ? Fabrice Dalmena nous livre son sentiment.
Merci d'écouter Europe 1 ce vendredi 11 janvier. Et très bon réveil à tous, il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce vendredi 11 janvier. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Très en joie aujourd'hui visiblement. À la une ce matin.
Une division au sein de la majorité sur l'idée de faire payer les parents dont les enfants sont violents, une mesure régulièrement portée par des élus de droite. La mort des deux membres d'équipage du Mirage qui s'est écrasé dans le Jura mercredi, les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues. Et puis comment synthétiser toutes les propositions pour mener le grand débat en réponse à la mobilisation des Gilets jaunes? Un outil numérique va être présenté par des chercheurs du CNRS.
Europe 1.
C'est un vieux serpent de mer, suspendre les allocations familiales aux parents dont les enfants sont violents. Jean-Michel Blanquer a confirmé qu'il songeait à sanctionner les parents dans le cadre du plan sur les violences scolaires présenté à la fin du mois. Une mesure qui a déclenché une fronde inédite des députés de la majorité. Virginie Riva.
Une mesure à peine évoquée par Jean-Michel Blanquer est déjà totalement contestée par une partie de la majorité, c'est rarissime. Le tir de barrage vient d'une grosse dizaine de députés de premier plan, tous plutôt issus de la gauche d'En Marche. Une opération coordonnée sur les réseaux sociaux, le ton est clair, on ne veut pas de cette mesure répressive. Elle n'a rien à voir avec les valeurs d'En Marche pour le député Aurélien Taché.
Il y a une mesure dans un rapport qui nous pose vraiment problème. Donc autant le dire maintenant, je ne suis pas dans une forme d'angélisme. Moi je sais que des familles n'arrivent pas à faire face et qu'il y a certains jeunes qu'il faut absolument pouvoir rattraper par des mesures un peu fortes. Mais ce n'est certainement pas en punissant leurs parents. Ça, je crois que c'est quelque chose, oui, qui repose sur une illusion, sur un dogme conservateur qui n'a pas sa place dans une politique menée par un gouvernement progressiste.
En réponse, Jean-Michel Blanquer a bien confirmé étudier une telle mesure en signe d'apaisement. Le ministre de l'Éducation a reconnu qu'il faudrait tenir compte des situations de chaque famille. Mais l'un des députés n'est toujours pas convaincu. Les familles qui encouragent la violence de leurs adolescents sont pour lui tout simplement très rares. Un autre espère surtout qu'il s'agit d'un ballon d'essai. Tous comptent bien échanger directement avec le ministre et le faire reculer.
Virginie Riva, syndicats et patronats invités à échanger ce matin à 9h à Matignon avec Édouard Philippe et Muriel Pénicaud sur les quatre domaines sur lesquels doit porter le débat. Transition écologique, fiscalité, démocratie et citoyenneté, mais aussi réforme de l'État. Côté syndicat, il y aura deux absents, CGT et Solidaires qui dénoncent un exercice de communication. Et puis depuis l'Allemagne, le Premier ministre a affiché sa volonté résolue. Ce sont ses mots de poursuivre les réformes en France. Malgré la crise des Gilets jaunes, Édouard Philippe a jugé que l'immobilité était le plus grand risque.
Cet après-midi, une délégation de Gilets jaunes du sud de la France va être reçue au siège de la Commission nationale du débat public à Paris.
Oui, ils vont présenter à l'équipe de Chantal Joanneau un outil numérique développé par des chercheurs du CNRS. Il permettrait, selon eux, de synthétiser les milliers de propositions qui vont émaner des réunions à travers tout le pays. Ils voudraient faire de cette plateforme l'outil officiel de centralisation. Théo Manval.
Le fonctionnement de la plateforme est simple. Tout le monde pourrait entrer sa proposition sur le site. Tout le monde pourrait ensuite voter pour ou contre les idées des uns et des autres. Et à la fin, le logiciel compilerait tout ça par mots-clés pour en faire une synthèse lisible, explique Eliane Calliol. Gilet jaune, il a participé à la mise au point.
Sous la forme d'un graphique en trois dimensions, très visuel, très facile à comprendre, on va pouvoir voir quelles sont les revendications qui concernent les gens, qui suscitent le plus d'intérêt, le plus de réactions de désapprobation ou de réactions d'approbation.
Un immense scanner, en quelque sorte, développé par des mathématiciens du CNRS. L'un d'eux sera d'ailleurs du rendez-vous cet après-midi à la Commission nationale du débat. Et si les Gilets jaunes veulent en faire l'outil officiel de remonter des propositions, c'est pour, dit l'un d'entre eux, Christophe Chalençon, que les autorités ne puissent pas ignorer au final telle ou telle revendication.
Le gouvernement a voulu faire de l'enfumage en nous mettant à disposition des cahiers d'écoliers et une locomotive à vapeur du 19e siècle. Et nous arrivons avec le TGV du 3e millénaire. Donc aujourd'hui, tout va être abordé. pour servir la démocratie.
Reste à savoir si l'État acceptera la proposition ou préférera sa propre plateforme.
Théo Manval, les Gilets jaunes se préparent à l'acte 9 demain. 80 000 policiers et gendarmes mobilisés à travers tout le pays et une ville qui se barricade, Bourges, dans le Cher, visée par un appel à manifester. Un collectif très suivi sur Facebook a choisi la préfecture du Cher. Florence Parly va se rendre aujourd'hui sur la base aérienne de Nancy-Auchet en Meurthe-et-Moselle, d'où avait décollé le Mirage qui s'est écrasé mercredi dans le Jura. La ministre des Armées a annoncé hier que les deux militaires n'avaient pas survécu au crash. Selon l'Est républicain, le pilote était un père de deux fillettes originaires de Pau. La copilote, elle avait 30 ans et pas d'enfant. L'avenir de Carlos Ghosn reste en suspens chez Renault. Un audit interne a conclu à l'absence de fraude concernant la rémunération des principaux dirigeants du groupe. L'avenir judiciaire de Carlos Ghosn, lui, pourrait s'assombrir encore un peu plus. Aujourd'hui, il se prépare à faire l'objet de nouvelles inculpations par la justice japonaise.
Europe 1, il est 6h05.
Pour terminer en beauté, Céline, une exposition fascinante à voir au Palais de la Découverte à Paris.
Son nom, Poison, une expo qui nous invite à découvrir les espèces animales et végétales les plus toxiques et les plus dangereuses.
Poison, pas poisson.
Poison, reportage d'Aude Leroy.
Leurs noms font frissonner. Serpent à sonnette, mygale, veuve noire ou encore scolopendre. Ces espèces sont toutes dangereuses, à l'instar de ce minuscule et ravissant crapaud bleu, 8 grammes seulement, capable de tuer sa proie par simple contact. Un poison très utile aussi à l'homme qui en tire des traitements médicaux efficaces, comme le venin du monstre du Gila, un gros lézard nord-américain, explique Marc Reed, muséographe.
C'est un des rares lézards qui est venimeux. Dans son venin, il y a une hormone et cette hormone permet au lézard de réguler le taux d'insuline dans son sang. Et en fait, les chercheurs ils ont trouvé un moyen d'adapter cette molécule pour créer des médicaments pour traiter le diabète type 2.
Aucun danger pour les visiteurs. Les vivariums ont des vitres doublées, voire feuilletées. Il y a des salles de confinement. Tout est prévu pour protéger les hommes et les bêtes, car certaines espèces, si elles s'échappaient, ne laisserait aucune chance de survie.
Le plus protégé, c'est le mambo noir parce que c'est un serpent rapide, 6 mètres par seconde. Il peut ramper aussi vite que vous pouvez courir.
Et même si la sécurité est ultra élevée, à la veille de la manifestation des Gilets jaunes le 8 décembre dernier à Paris, toutes ces bêtes ont été déménagées dans un endroit tenu secret.
Un reportage Aude Leroy.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. J'ai envie de dire la diabolique Céline Kallmann. Car oui, jalousie, perfidie atavique, remontant à ses origines suisse-allemandes, suisse-allemands qui n'ont jamais pu blairer les Genevois. En tout cas, Céline n'a pas pu s'empêcher de se foutre de ma gueule hier, suite à notre bel article dans Télérama.
Très sympa, dis donc, ce petit article-là. Si les chiffres sont pareils, c'est bien.
Europe 1. Il est 6h07, Mathieu Noël.
Je ne ferai pas de commentaires. À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et ce matin, Fabrice Dalméda se penchera sur les précédents historiques du grand débat national voulu par Emmanuel Macron. Ce n'est pas du tout une première.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo de ce vendredi avec vous, Céline Dacosta. Un ciel couvert et pluvieux pour la moitié nord.
Oui, oui, c'est ce qu'on avait dit hier, ça se confirme. La perturbation arrivée par la pointe nord se développe un petit peu plus. Dès ce matin, de faibles averses sur toute la moitié nord. Pas beaucoup d'évolution pour cet après-midi, si ce n'est que cette perturbation va gagner du terrain et sera présente au-dessus d'une ligne Gironde-Franche-Comté. On aura peut-être quelques flocons en pleine dans le Grand Est et pour les autres, beaucoup de brouillard, de nuages bas ce matin. Des brouillards parfois givrants dans le sud-ouest et nord-est. Cet après-midi sera partagé pour la moitié sud entre nuages et éclaircies. Puis le soleil va briller encore largement près de la Méditerranée au prix d'un vent toujours très fort. Le Mistral et la Tramontane ne faiblissent pas.
Merci Céline. Eva, beaucoup de messages d'auditeurs ce matin.
Et oui, parce qu'on vous demande depuis 5h du matin quel est votre humoriste préféré, puisque le 11 janvier naissait Jacqueline Maillan, Albert Dupontel ou Philippe Chevalier. Eh bien, c'est Lola Dubini qui nous a répondu ce matin. La youtubeuse qu'on aime beaucoup qui nous dit Muriel Robin, Valérie Lemercier, Les Nuls, Les Robins des Bois, Les Deschamps, Pierre Palmade, Old School, ça paye toujours et elle a raison. Continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva, merci aux auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Il arrive en petite foulée, chic et sport, toujours facile. Son cœur balance entre deux femmes, vous le savez, la sienne et sa collègue Céline Dacosta, à qui il en a fait le serment. Un jour, quand il trouvera le courage, il tranchera dans le vif.
J'ai dit au revoir, I said bye bye.
Oui bon, attendez, je n'oubliez pas que vous avez le crédit de la C4 Picasso à payer. On passe au journal des sports. À la une de ce journal, Jérôme, Didier Deschamps face aux auditeurs d'Europe.
Entretien exceptionnel dimanche, rendez-vous 20h dans Europe 1 Sport, le sélectionneur des Bleus du foot, champion du monde, questionné par un panel d'auditeurs. 1h30 d'entretien. L'émission a été enregistrée mardi en public. Aucun sujet éludé. Pour preuve, cet extrait en avant-première, Deschamps et Karim Benzema. L'attaquant n'est plus appelé en bleu depuis plus de 3 ans en raison de démêlés judiciaires. Il n'avait donc pas été sélectionné pour l'Euro 2016 en France. Benzema avait alors dit dans la presse espagnole, Didier Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. Par la suite, la maison en Bretagne du sélectionneur avait été taguée du mot raciste.
Que certains puissent se permettre de tenir des discours qui amènent après à des conséquences qui dépassent tout entendement, non, ça j'oublierai jamais. À ce moment-là, j'ai considéré que la ligne blanche avait été franchie. Et quand on franchit la ligne blanche, après, il y a un point de non-retour. C'est des moments très, très désagréables parce que ça a des conséquences sur ma famille et c'est pas acceptable. Mais c'est quelque chose que je ne peux pas oublier.
Didier Deschamps avec Lionel Rousseau et les auditeurs d'Europe 1, émission exceptionnelle dimanche à partir de 20h. Le foot ce matin, ce sont aussi les affiches des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Tirage au sort hier soir. Guingamp-Monaco et Strasbourg-Bordeaux les 29 et 30 janvier.
À 31 ans seulement, j'ai envie de dire, ben oui. Andy Murray annonce sa retraite pour cette année.
Sans précision, sans date précise, il a dit possible que l'Open d'Australie qui démarre lundi soit mon dernier tournoi. Il l'a dit cette nuit en larmes, l'ancien numéro 1 du tennis mondial. Il s'est effondré face à la presse. Murray a été absent 1 an pour une opération à une hanche. Le Dakar est décidément, c'est dur pour Sébastien Loeb sur Peugeot. 3 crevaisons hier lors de la 4e étape entre Arequipa et Tacna au Pérou. Il finit 5e à plus de 12 minutes du vainqueur du jour, le Qatari Al Attiyah sur Toyota.
Le handball et les Bleus sans leur totem.
Et oui, sans leur star des stars, Nicolas Karabatic, blessé à un pied. Il n'est pas avec le groupe en Allemagne pour débuter le mondial. Entrée en lice française ce soir, 20h30, France-Brésil. Sans Karabatic, au moins au début, les Bleus vont tenter de décrocher un 7e titre mondial. Ce serait le 3e d'affilée et qui plus est, l'obtenir en Allemagne, terre de handball. Oui, cela aurait une saveur particulière. C'est ce que clame le directeur technique français Philippe Bana.
Tu vas dans la Mecque du handball, tu vas à l'endroit où tout est né, tu vas à l'endroit où il y a 20 ans, nous on regardait ça, petit handballeur à 150 000 licenciés français, alors que là-bas il y avait 1 million de licenciés. Ouais, il y a quelque chose comme aller visiter Dieu le Père, quoi, et dire, et ça va, on va vous expliquer que nous on est Jésus et qu'on peut faire un truc.
Propos recueillis par Christophe Labarre, mondial de handball. Balle à suivre sur Europe 1.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Un petit peu en lien avec la fin du son qu'on vient d'entendre. D'ici quelques années, peut-être, prêtre, religieuse, garde suisse, en course aux Jeux Olympiques.
Non.
La Fédération d'athlétisme du Vatican est officiellement née hier. Les JO sont un rêve, déclare son président. Mais d'abord, les 60 athlètes tout de même du Saint-Siège pourraient s'aligner sur des compétitions moins importantes.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Merci Jérôme, je ne vous présente pas Fabrice Dalméda, le monsieur Histoire d'Europe 1 qui nous a rejoint. Mystérieux Fabrice Dalméda, dandy insaisissable, extrêmement secret sur sa vie privée. On ne sait pas vraiment à qui va sa préférence.
Ah, des femmes bien sûr, mais plutôt fortunées.
D'où la Bentley, je me disais aussi.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
La semaine prochaine débute donc le grand débat national voulu par le président Emmanuel Macron. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire politique de la France qu'il y a ce genre de consultation, mais est-ce que les précédentes ont été des tournants historiques ?
Mais il y en a un qui est encore dans toutes les têtes comme une réussite, c'est celui de 1789, avant la Révolution française. C'est alors qu'on a rédigé les cahiers de doléances. Louis XVI l'a lancé le 24 janvier 1789 en convoquant les États généraux, l'Assemblée où des délégués venus de toute la France devaient exposer au roi les besoins de ses sujets.
Comment s'est déroulé le débat à l'époque ?
Alors, dans toutes les paroisses de France, des débats ont été organisés, puis des délégués ont porté ces doléances écrites, ces demandes au niveau des bailliages, les ancêtres des départements, et dans les provinces. À chaque étape, les demandes du tiers-état, c'est-à-dire des habitants des villes et des paysans, ont été synthétisées. De leur côté, les nobles et les aristocrates préparaient leurs propres exigences. En tout, 60 000 cahiers de doléances ont été produits. Il en ressort de grandes idées. L'abolition des privilèges, la réforme des taxes, des demandes de liberté nouvelles et même un appel à l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Ces thèmes allaient irriguer la Révolution française. Ils ont inspiré des institutions qui finalement ont emporté Louis XVI.
Et il y a eu d'autres débats moins réussis.
Les auditeurs se souviennent peut-être du grand débat sur l'identité nationale de Nicolas Sarkozy en 2009. Il a déclenché une polémique virulente avant même la tenue des débats locaux en préfecture. Mais il a donné peu de résultats et laissé une impression inaboutie. Le grand débat d'aujourd'hui, s'il est trop réussi, risque donc d'aller bien au-delà des limites posées par Emmanuel Macron. Et s'il déçoit, il tombera dans les oubliettes de l'histoire.
Merci beaucoup. À propos des cahiers de doléances, dès mercredi, Fabrice, vous y reviendrez dans votre podcast Au cœur de l'histoire, à retrouver sur le site europe1.fr.
Oui, on le mettra en ligne sur l'application Europe 1, sur le site, bien sûr, pour tous ceux qui veulent comprendre comment les cahiers de doléances ont changé la France.
C'est un moment de l'histoire française passionnant et pour ceux qui aimeraient le découvrir de manière ludique, je crois que la pièce de théâtre revient, d'après ce que je vois sur Internet. C'est une pièce fabuleuse de Joël Pomera qui s'appelle Ça ira, fin de Louis, qui vous place en tant que spectateur, comme si vous étiez dans l'Assemblée constituante et vous assistez au débat, c'est basé sur des vrais débats de l'époque. C'est absolument passionnant de voir l'histoire se faire autour de soi, en direct. On comprend un peu comment ça s'est passé, c'est absolument fabuleux. Je crois que ça revient à partir d'avril au Théâtre de la Porte Saint-Martin, si je ne m'abuse. À vérifier. Merci beaucoup Fabrice Delmeda.
Europe 1. Il est 6h16, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures d'actu et d'invités qui la font. Et ce matin, alors que les soldes d'hiver battent leur plein et qu'on se retrouve parfois à acheter, il faut le dire, tout et n'importe quoi, à 6h20, nous recevons Madjouline Sbahi, sociologue et auteur d'un livre intitulé « Une mode éthique est-elle possible ?» aux éditions de l'Échiquier. Depuis plusieurs années maintenant, on sent qu'une prise de conscience a lieu. Les enseignes proposent de plus en plus de collections éthiques. Mais voilà, Céline, regardez-moi droit dans les yeux et dites-moi que vous achetez moins de vêtements.
Voilà.
Eh oui, on veut tous acheter éthique. En revanche, on veut tous continuer d'acheter. Comment sortir de ce cercle vicieux? On en parle, mais d'abord, détendons-nous en musique avec Divaphone et Léa Pacci, Get Up sur Europe 1.
Il est 6h21, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
C'est aujourd'hui que les dirigeants syndicaux et patronaux seront reçus par Édouard Philippe et Muriel Pénicaud à Matignon dans le cadre de l'organisation du Grand Débat National. Le pilote et la navigatrice de l'avion de chasse qui s'est écrasé mercredi dans le Jura sont morts. Annonce hier soir de la ministre des Armées, Florence Parly va se rendre aujourd'hui sur la base aérienne de Nancy-Auchet où était stationné l'appareil. Les circonstances précises de cet accident restent encore à établir. Enfin, c'est parti pour le mondial de handball. La France affronte ce soir le Brésil à Berlin. Nos Bleus sont double champions du monde en titre, rappelons-le.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce vendredi 11 janvier. Et alors que les soldes d'hiver battent leur plein, nous accueillons ce matin en studio une sociologue, auteure d'un livre intitulé « Une mode éthique est-elle possible ?» Bonjour Madjouline Sbahi.
Bonjour.
Depuis quelques années, on a le sentiment qu'il y a chez le consommateur et dans une certaine mesure chez les fabricants une prise de conscience du fait qu'on produit trop de vêtements et que le besoin d'une mode éthique se fait sentir. Pourtant, les chiffres sont là. Chaque année, 140 milliards de vêtements sont produits dans le monde. On en achète 4 fois plus qu'il y a 40 ans. Donc pour la soi-disant prise de conscience, on repassera ?
Oui, au niveau mondial. La réalité est en train de changer en France puisque depuis 10 ans, le marché français s'est réduit de près de 15%. Et donc on sent qu'il y a pour plusieurs raisons, les consommateurs achètent quand même moins de vêtements. Il y a une partie d'entre eux, on estime qu'à peu près 30% de ces consommateurs qui achètent moins de vêtements, c'est pour des raisons écologiques et sociales et d'engagement humain en faveur d'une mode plus responsable.
Mais néanmoins, en l'espace de 15 ans, la durée de vie des vêtements s'est réduite d'un tiers. La moitié des vêtements produits dans le monde, ça c'est incroyable, ne sont jamais portés. Ils ont même pas le temps d'être achetés. C'est quand même... on marche sur la tête.
Oui, ces chiffres-là illustrent bien en fait ce qu'on commence à appeler le gaspillage vestimentaire après le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire qu'on utilise des ressources naturelles, des process, des entreprises transforment des matières premières, etc. Il y a tout un processus pour construire un vêtement et à la fin, il y a un tiers de ce que nous avons dans notre placard que nous ne portons pas, une partie qui est invendue ou invendable et donc on voit bien qu'on pourrait finalement produire moins mais mieux.
Alors pour changer les choses, il faut évidemment commencer par la sensibilisation parce que pour la plupart des gens, c'est vrai qu'on parle beaucoup de pouvoir d'achat aujourd'hui, on voit le prix et on se dit c'est bien, on va l'acheter, c'est parce que les prix sont assez bas. Il faut rappeler peut-être, et vous qui avez enquêté sur les coulisses de cette industrie vestimentaire, il faut raconter comment on fabrique ces vêtements et qu'est-ce qu'il y a derrière. Peut-être ça incitera les gens à en acheter moins.
Oui, en fait, la façon dont on fabrique les vêtements a changé ces 30 dernières années puisque les marques n'ont plus leurs unités de fabrication, elles sous-traitent dans d'autres pays du monde et donc on a déconnecté en fait la distribution, ce qu'on trouve, la façon dont on vend les vêtements et ce qu'on fabrique. Et donc aujourd'hui l'enjeu c'est de réinvestir la façon dont on fabrique les vêtements pour vraiment se poser la question de comment je peux produire le même vêtement en ayant moins d'impact sur l'environnement, en produire moins mieux et puis les produire dans des conditions humaines et de respect des droits humains et des droits sociaux tout à fait acceptables aujourd'hui.
Parce qu'on n'y pense pas forcément quand on achète un jean, mais il y a des conséquences sur l'environnement qui sont quand même assez incroyables. Il faut 10 000 litres d'eau pour un jean, 3 000 pour un t-shirt. Là, tout de suite, quand on a ces chiffres en tête, on réfléchit à deux fois avant d'acheter un t-shirt. Enfin, je pense que c'est...
Moi, le chiffre qui me frappe le plus, c'est le fait également... Enfin, il y a les chiffres que vous citez sur la consommation des eaux d'irrigation dans le monde, etc. Mais il y a un chiffre sur les émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on ignore souvent, c'est que l'industrie de la mode émet plus de gaz à effet de serre que le transport aérien et le transport maritime international. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle... de réduction de nos impacts sur le dérèglement climatique, c'est déterminant de vraiment investir dans la transformation de l'industrie de la mode.
Eva Rock ?
Pardon, on sait que maintenant on peut choisir des labels éthiques en matière de vêtements. Est-ce que c'est plus cher ? Est-ce que ça coûte plus cher de s'habiller de façon éthique ?
Moi, ce que je dis souvent, c'est que si on n'achète que des vêtements qu'on porte vraiment et qu'on porte longtemps, forcément, on a une gestion de son budget qui est différente. Si on reprend le chiffre, on a un tiers des vêtements dans notre placard
qui dorment,
voire la moitié. Et donc, ça veut dire qu'on a déjà finalement deux fois plus de budget pour acheter des vêtements plus responsables.
Alors, il y a un peu un discours culpabilisant à l'égard du consommateur. Est-ce que ce n'est pas aux chaînes de magasins aussi de faire des efforts dans ce sens-là ?
Alors moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai un discours, d'ailleurs, y compris dans mon livre, qui s'adresse aussi aux entreprises et surtout aux entreprises. D'ailleurs, j'organise un forum de la mode responsable, de la mode circulaire que j'ai initié l'année dernière, qui s'adresse aux entreprises. Et donc, pour moi, il faut changer l'offre. Il faut que désormais, l'offre réponde à des standards, pour moi, évidents, de base en matière de respect de l'environnement et de respect de l'homme, et puis produire moins mais mieux, vendre moins mais mieux, et changer quelque part ce modèle économique aujourd'hui de cette course folle de la mode rapide.
Et ce sera ma dernière question, parce que justement il y a eu une prise de conscience, on se souvient en 2013 l'effondrement du Rana Plaza, plus de 1000 personnes perdaient la vie dans un immeuble insalubre qui s'effondre, des ouvriers du textile. C'est le problème de cette sous-traitance en cascade, chaque marque se défaussait en disant c'est pas nous, c'est des sous-traitants, parce que tout le monde sous-traite. Est-ce que ça, ce modèle-là, est en train de changer? Est-ce que vous sentez un changement de ce côté-là, une prise de conscience des marques et des grands groupes ?
Alors, les marques et les grands groupes prennent des initiatives. Souvent, c'est des collections capsules, des micros, des quelques produits qui sont proposés.
C'est pas
avec
la totalité de leur production.
Ça n'est pas la totalité. C'est pour ça que, je répète, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est toute la chaîne de valeur. Je sais que c'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, c'est l'ensemble de la façon dont fonctionne le modèle économique où on réussit économiquement quand on est une entreprise de mode parce qu'on vend le plus possible. Aujourd'hui, il faut changer ça. Il faut vendre des produits de qualité à un prix juste avec une proposition de valeur sur le respect de l'environnement.
Et le seul levier pour nous en tant que consommateurs, c'est donc de consommer moins. Par exemple, là, de ne pas se ruer sur les sols, juste de montrer aux marques, par le fait qu'on achète moins, que ce n'est pas comme ça que ça marche.
Voilà, réfléchir avant d'acheter, se tourner vers celles qui sont transparentes, qui proposent une vraie traçabilité de leur chaîne de valeur. Et puis, il y a aussi le seconde main. Quand on parle de mode accessible, c'est aussi un bon vivier. L'occasion, c'est aussi un bon vivier de solutions pour s'habiller chic et éthique.
Merci beaucoup, Madjoulin Zveï, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes sociologue et auteur du livre « Une mode éthique est-elle possible ?» aux éditions de l'Échiquier. Merci beaucoup.
Europe 1. Il est 6h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et le froid aussi.
Il est 6h29, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo. Comme prévu, la pluie revient sur la moitié nord, Céline.
Oui, faiblement pluvieux et cette perturbation va se décaler un petit peu vers le sud dans l'après-midi. Pour la moitié sud ce matin, quelques nuages, des brouillards même, parfois givrants, notamment dans le sud-ouest et dans le nord-est. Le soleil reviendra sur la moitié sud pour cet après-midi. Grand soleil près de la Méditerranée avec encore beaucoup de vent. Le tout sous des températures hivernales. Beaucoup de températures négatives ce matin. Il fait moins 4 degrés à Tarbes. 0 à Bordeaux, 6 à Brest ou encore 7 à Dunkerque. Et puis cet après-midi, les températures restent froides. 0 à 6 degrés du sud-ouest au nord-est, 7 à 9 pour les autres, jusqu'à 13 degrés encore à Toulon.
Merci Céline, restez avec nous sur Europe 1. Dans 30 secondes, le journal de 6h30.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos et de rire désormais validées par le magazine Télérama, qui, en nous décernant 2 T dans sa dernière édition, toujours en kiosque, nous exhorte, je crois, à faire preuve d'encore plus d'exigence dans notre approche de l'humour. Un appel auquel a répondu Désir Evarock, en marge de la chronique santé du docteur Ichou. Tout à coup, une vanne lui est venue à l'esprit. Je lui ai pourtant dit « Attention Eva, ce n'est pas parce qu'une vanne te vient qu'il faut forcément la dire ». Hélas, Eva écoute très peu mes conseils et soudain...
Tu savais que le nerf optique, c'était le nerf le plus long dans le corps humain ? Tire-toi un poil du cul, tu pleures.
Une réaction, Eva ?
Allez. Elle peut pas. Elle
la fierté, peut-être un sentiment de fierté qui vous inonde.
Je pense à mes parents.
Voilà, moi aussi je pense à vos parents très fort. Et à Laurent Guimier, le patron d'Europe 1. Heureusement, debout les copains, c'est aussi l'expertise des trois fantastiques. Politique, économie, médias, nos éditorialistes passent l'actu à la moulinette. Au programme notamment ce matin, le divorce certainement un peu coûteux de l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos. Et puis, l'agent Darmon vous entraînera une fois plus dans les coulisses du pouvoir. Il nous dévoilera le plan secret des présidents de chambre, Ferrand et Larcher, pour sauver Macron. Une chronique qui s'autodétruira après 2 minutes 30.
À vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui.
Les ministres sur le terrain, opération vente du grand débat national pour Jean-Michel Blanquer et Sébastien Lecornu dans les Hautes-Alpes. Et ce n'est pas facile, vous l'entendrez dès le début de ce journal. Parcoursup 2.0, nouvelle version améliorée avec suppression des bugs. Elle sera présentée aujourd'hui, nous vous en dévoilons les grandes lignes. Et enfin aux États-Unis, pas de porte de sortie en vue. Le shutdown entre dans son 21e jour, le record de 1995 est égalé.
Europe 1.
Le déplacement mouvementé de deux ministres, Jean-Michel Blanquer et Sébastien Lecornu, sillonnaient hier les Hautes-Alpes. Ils ont tous les deux été interpellés par des gilets jaunes à plusieurs reprises, essayant d'instaurer un dialogue parfois impossible. Mais leur démarche vise aussi les élus sur qui ils comptent pour animer le grand débat. Le ministre de l'Éducation et celui des collectivités territoriales ont échangé à Gap avec une centaine d'entre eux. Reportage de notre envoyé spécial Jean-Rémy Baudot.
Qu'attendez-vous concrètement de nous au niveau de ce grand débat ?
Voilà la question qui revient le plus. Des maires et responsables associatifs embarqués bien malgré eux dans l'aventure du grand débat national. Le gouvernement veut en faire des tiers de confiance, selon l'expression de l'Élysée. Des intermédiaires un peu perdus qui s'interrogent sur l'efficacité réelle du débat.
Dans des petites communes rurales, et les gens qui vont au travail, qui ont des difficultés comme tous les autres, ils sont dans leur quotidien et que ce n'est pas des gens qui ont l'habitude d'aller se plaindre ou d'aller exprimer des choses. J'ai peur qu'ils ne viennent pas en mairie pour nous traduire leur souffrance au quotidien.
Quelques-uns ont déjà mis en place des cahiers de doléances, mais restent perplexes sur la méthode. Ils craignent de ne pas savoir répondre aux questions de leurs administrés. La remontée des revendications jusqu'au plus haut de l'État est aussi une préoccupation.
Après, ce qu'il faut, c'est que les ministres qui sont venus soient à l'écoute de ce qui va remonter. Mais ça, c'est eux qui le verront, c'est pas nous. Hein.
De leur côté, les ministres se sont justement engagés à faire remonter les toutes premières réclamations au président en personne. Les autres règles concrètes de l'organisation seront annoncées lundi par le Premier ministre. La balle est désormais dans le camp du dialogue sur le terrain. Gap, Jean-Rémy Baudot, Europe 1.
Et toujours dans la perspective de l'organisation du débat, le Premier ministre reçoit ce matin à Matignon les dirigeants patronaux et syndicaux. Édouard Philippe, qui doit en outre nommer une personnalité ou un collège de responsables pour remplacer Chantal Jouanneau. Mais le gouvernement peine à trouver le bon casting. Côté Gilets jaunes, les choses s'organisent pour l'acte 9. Demain, de nouveaux rassemblements sont prévus à travers la France, notamment à Bourges, mais aussi toujours à Paris. Je vous rappelle aussi que le Premier ministre a annoncé la mobilisation de 80 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire.
Europe 1, il est 6h34.
Les nouveautés de la plateforme Parcoursup seront dévoilées ce matin pour l'ouverture du salon de l'orientation post-bac à Paris. Mais notre spécialiste éducation, Virginie Salmen, en connaît déjà les grandes lignes.
Cette année, on ne verra pas de candidats attendre désespérément leurs résultats de Parcoursup tout au long du mois d'août. Ce défaut a été corrigé. Trop de mauvaises publicités. La procédure s'arrêtera désormais le 19 juillet. Les listes d'attente devraient être un peu moins angoissantes puisque les étudiants connaîtront leur rang dans le classement, c'est-à-dire s'ils sont 500e ou 2000e sur 5000 pour entrer en fac de psycho par exemple, et ils sauront précisément combien de personnes seront prises. Autre nouveauté, une carte de France des 14 000 filières, pour y voir plus clair, où figureront aussi cette année les écoles d'infirmières. Les candidats pourront installer sur leur téléphone portable une application mobile Parcoursup pour recevoir plus facilement les réponses des formations auxquelles ils ont postulé. Et pour éviter qu'ils ne passent l'été le nez collé à leur ordinateur dans l'attente d'une réponse, un répondeur automatique a été créé. Notamment pour ceux qui ont une idée très claire de ce qu'ils veulent faire, ils pourront programmer le logiciel pour répondre à leur place au lieu de se connecter tous les jours.
Information Europe 1 signée Virginie Salmen.
À suivre dans ce journal, il y a un mois, Strasbourg était la cible de la violence terroriste. Les familles des victimes essaient tant bien que mal de se relever. À tout de suite.
6h35. Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan. Il y a un mois, Strasbourg était frappé par le terrorisme, mais c'est bien sûr toujours un traumatisme pour la ville et les proches des victimes.
Oui, 4 semaines après l'attaque de Shérif Chekat sur le marché de Noël, je vous rappelle que 5 personnes ont été tuées, 11 autres blessées. L'assaillant, après 2 jours de cavale, avait fini par être abattu lors d'un échange de tirs avec la police. Les Strasbourgeois en général, les familles des victimes en particulier, essaient de redresser la tête, mais bien sûr, ce n'est pas facile. Arthur Mbaché.
Ils sont 3 garçons de 22 à 34 ans. Le mois dernier, nous avons vu, les Strasbourgeois ont vu le sang de leur père par terre devant un restaurant du centre-ville. Arnaud Friedrich est leur avocat.
Mes clients sont toujours sous le choc. Le temps n'est pas encore venu à l'assimilation de cette peine. C'est une plaie qui est béante. On est dans une phase d'acceptation de cette absence. Il y a vraiment une volonté de se redresser, mais il ne faut pas se redresser trop vite. Il faut également avoir ce temps du deuil et ils sont encore dans ce temps de deuil.
Le Fonds de garantie des victimes du terrorisme a versé fin décembre une première somme aux victimes, aux familles, pour régler les obsèques notamment. Depuis l'attentat, il y a eu ici 1300 consultations de suivi psychologique sous l'autorité du psychiatre Dominique Mastelli.
Une personne qui ne présente aucun signe sur le moment, qui va très bien, peut présenter des semaines, des mois, voire des années après, des signes très très envahissants. Un détail va faire qu'il y a une mise en lien avec l'événement et celui que nous pensions être sur une bonne voie va se retrouver en situation difficile, devoir être soigné.
Pour des Strasbourgeois incapables de retourner au travail, de faire leurs courses, de s'occuper de leurs enfants, les psychologues ont délivré des centaines d'heures d'incapacité totale de travail. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
Prenons maintenant la direction, si vous le voulez bien David, des États-Unis où le record du plus long shutdown sera égalé aujourd'hui.
Oui, 21 jours de paralysie partielle de l'administration américaine, mais Donald Trump continue de défendre l'idée de son mur à la frontière avec le Mexique. Le président était d'ailleurs hier à McAllen, ville frontalière texane. Je vais y arriver, les démocrates refusent toujours de financer les 5,7 milliards de dollars. Chacun des deux camps accuse l'autre d'être responsable du shutdown. Pendant ce temps, 800 000 fonctionnaires sont au chômage technique. Alors certains d'entre eux s'occupent, par exemple, dans cet atelier tricot à Washington. Reportage Sonia Tridipo.
Au milieu des pelotes de laine de toutes les couleurs, une quinzaine de fonctionnaires retrouvent le sourire. Cet atelier de tricot propose des classes gratuites à ses employés au chômage technique tous les après-midi jusqu'à la fin du shutdown. Amy Barnes est contractuelle pour le service des douanes et de protection des frontières. Elle n'est pas payée depuis près de 3 semaines et commence à s'inquiéter pour ses finances.
Des amis m'ont envoyé des choses de façon anonyme. Des repas sont apparus à ma porte. Ma famille m'a donné de l'argent, des cartes cadeaux. Ce ne sont pas des choses qui m'aident à payer mes factures, mais ça m'aide à tenir le coup moralement.
Beaucoup ici ont demandé à leurs propriétaires un délai pour payer leur loyer. En plus de pouvoir ramener chez eux des bonnets ou pulls tricotés, cet atelier leur remonte le moral.
C'est sympa ici la camaraderie. On voit qu'on n'est pas isolé, on ne parle pas trop de la situation. On essaye surtout d'apprendre à tricoter, mais ça fait du bien de voir qu'il y a des gens dans le même bateau.
Vu l'impasse politique, ce shutdown est bien parti pour être le plus long de l'histoire et devrait coûter plusieurs milliards de dollars à l'économie américaine. À Washington, Sonia Dridi, Europe 1.
Et puis, pour conclure, nous venons de l'apprendre, Carlos Ghosn a été à nouveau inculpé. Donc, il s'agit d'une nouvelle inculpation au Japon, cette fois-ci pour abus de confiance et revenus minorés. Je vous rappelle que le conseil d'administration de Renault hier avait publié les résultats d'un audit interne qui concluait qu'il n'y avait pas eu de fraude au salaire en France.
Merci, c'était le journal de David Doucan. David, dont la sublime voix au timbre envoûtant avait hier perdu un peu de sa superbe, il faut le dire, la faute à une petite trachéite. Le glamour du légendaire Barry White blanc s'en est-il trouvé affecté? Selon Barry lui-même, la réponse est non.
Oui, oh
non.
Je suis un petit peu enroué, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que ça ne rajoute pas un côté sexy? Hein, les filles? Dites-le.
Sacré Barry.
Non, mais...
Allez Céline.
Tellement de trucage, vous
aucun
truquez.
Trucage, juste un peu de musique pour souligner tout. Les effets. Céline, cessez de fantasmer en regardant Doucan. Procédez,
c'est difficile.
C'est dur, mais concentrez-vous. Procédez, s'il vous plaît, à la météo.
Oui, avec encore du soleil près de la Méditerranée, mais beaucoup de vent pour la moitié sud. C'est assez simple aujourd'hui. Il y aura des éclaircies pour la moitié nord. Là, ça sera couvert avec de faibles averses. Un petit coup d'œil à ce qui nous attend ce week-end avec demain, samedi, une journée assez nuageuse. Un tout petit peu de soleil sur l'extrême sud-est avec avec toujours du vent. Des nuages pour les autres, de faibles averses sur les côtes. Et puis quelques flocons entre le massif central et le nord-est. Et puis dimanche, journée bien perturbée, beaucoup de vent sur l'ensemble du territoire. De faibles averses, toujours du soleil qui va résister sur l'extrême sud et la Corse avec beaucoup de vent. Et des températures qui remontent un tout petit peu dimanche. Une moyenne de 10 degrés pour l'après-midi pour la moitié nord et 11 degrés pour la moitié sud.
Merci beaucoup, Céline Acosta.
Il est 6h42, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire, en compagnie de 2 consoeurs que j'adore, même si je ne peux pas toujours me porter caution de leurs réflexions. Je le précise au cas où, Céline.
Au cas où, non pas au gazou. C'est pas la même chose. Le gazou, c'est un... J'en ai un gazou à la maison. Oh, je ramènerai mon gazou, tiens.
Oui, c'est QFD. À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent et entre le plan secret de Richard Ferrand pour sauver Macron et le divorce de Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, comme on dit trivialement, ils ont du matos.
Il est 6h45, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Un acte neuf du mouvement des Gilets jaunes se prépare pour demain. Certains des leaders appellent à manifester à Paris, d'autres visent la ville de Bourges. Le gouvernement a prévu de mobiliser 80 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire. Un audit interne réalisé chez Renault a conclu à l'absence de fraude sur la rémunération de Carlos Ghosn en 2017 et 2018. Il reste donc pour l'instant PDG de Renault, mais au Japon, la situation se corse encore, puisqu'on vient de l'apprendre ce matin. Carlos Ghosn vient en effet d'être inculpé pour abus de confiance et rémunération minimisée. Enfin, rien de tel qu'un mur, c'est du bon sens. Voilà ce que Donald Trump a lancé en déplacement au Texas à la frontière mexicaine. Les deux camps, le président d'un côté, les démocrates de l'autre, ne bougent donc pas d'un iota. Et la paralysie partielle de l'administration américaine, le shutdown, entre donc dans son 21e jour. Le record de 95 est égalé.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Les voilà réunis, plus fringants que jamais. Les trois fantastiques. Eva Rock pour les médias, Axel de Tarlé pour l'économie et les collections Palini, Mickaël Darmon pour la politique, trois experts à l'intégrité totale, trois journalistes qui ne cèdent jamais à la flagornerie, n'est-ce pas Mickaël Darmon?
En tout cas, bravo pour Télérama.
Oui, bref, nous avons fort à faire aujourd'hui. Mickaël, on commence par vous. Alors que lundi débutera le grand débat national lancé par le président de la République, des réflexions sont en cours au sommet de l'État afin de relancer le fonctionnement du quinquennat. Quelles sont les solutions envisagées?
Alors, lundi, un déjeuner est prévu entre le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Richard Ferrand et Gérard Larcher, figurez-vous, sont d'accord sur l'analyse. Le grand débat national, c'est bien pour entendre les Français, mais la solution pour sortir de la crise ne pourrait être que politique. Les présidents des deux assemblées veulent donc réfléchir ensemble à la manière, je cite, de trouver une réponse pour sortir le président de la République de là. Comprendre, le sortir de la crise. Et parmi les pistes envisagées, une coalition gouvernementale entre plusieurs formations sur la base d'un accord de gouvernement. Au sommet des assemblées, on précise, toute la question bien sûr sera que mettre donc dans cette corbeille pour le programme. Et évidemment, question subsidiaire, qui serait à la tête d'une telle coalition? Plusieurs noms circulent dans les coulisses du pouvoir, dont celui du président LR du Sénat. Gérard Larcher, mais évidemment l'intéressé, balaye cette éventualité, tout en soulignant quand même que le Sénat est le lieu de la synthèse et des politiques raisonnables. Donc, une cohabitation sans dissolution, c'est le système qui pourrait donc être un des actes politiques nécessaires après le débat national. Ce serait un véritable tournant pour Emmanuel Macron, précise une source au sommet de l'État, parce que jusqu'à présent, eh bien Macron a toujours refusé de négocier avec des partis.
En attendant, le grand débat national sera donc lancé lundi. L'épreuve de vérité pour le président de la République.
Et oui, la question est cruciale hein, pour le chef de l'État, parce que ce séminaire sur les politiques publiques et le fonctionnement de la démocratie à l'échelle d'un pays hein, se veut à la fois thermomètre et remède pour calmer un pays au bord de la crise de nerfs, hein, comme contre les élites et contre tout ce qui représente un pouvoir, comme le montrent régulièrement les études d'opinion. On le voit, ce pari est audacieux, mais en fait le pouvoir n'a pas le choix. C'est une opération déterminante et la manière dont il va se dérouler ces prochains jours fixera les options pour la suite. L'enjeu, bien sûr, c'est d'amener les Gilets jaunes autour de la table, de reprendre un peu d'oxygène. Ce sera nécessaire pour réparer un moteur du quinquennat totalement en panne et la réparation pourrait bien durer toute l'année 2019.
Merci beaucoup Mickaël Darmon pour cet éclairage politique. Axel de Tarlé, on parle économie et gros sous, ça devrait être le divorce le plus cher de l'histoire. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, divorce après 25 ans de mariage.
Voilà, et Jeff Bezos est la personne la plus riche du monde parce qu'il possède 16% d'Amazon. Amazon, c'est l'entreprise la plus chère du monde. Donc Jeff Bezos possède à lui tout seul 130 milliards de dollars. Sauf que Jeff Bezos divorce. Et selon la loi en vigueur dans l'État de Washington, sa femme, son ex-femme, enfin Mackenzie Bezos, peut prétendre à récupérer la moitié. Ce qui nous ferait donc 130 divisé par 2, 65 milliards de dollars, ce qui en ferait la femme la plus riche du monde. Alors c'est un triste jour pour la France parce qu'elle supplanterait notre Françoise Bettencourt-Meyer, qui à ce jour est la femme la plus riche du monde avec 44 milliards.
Mais pour l'instant, Axel, on n'est sûr de rien. Peut-être ont-ils conclu un accord de mariage qui prévoyait les choses en cas de divorce.
Alors, c'est, vous avez raison, ça se fait beaucoup chez les Américains très riches. Ça s'appelle des on signe un prénuptial. Sauf que les époux Bezos, Jeff et Mackenzie, se sont rencontrés avant la réussite. Ils se sont rencontrés, ils étaient tous les deux dans un fonds d'investissement à New York. Ils se marient en 93.
Oui, mais ils étaient déjà dans un fonds d'investissement, à mon avis. À mon avis, oui, ils avaient tous les deux fait Princeton. À mon avis, mais il avait assuré ses arrières.
Et voilà. Et puis, ils décident, ma chère Mackenzie, et si nous allions déménager de New York sur la côte ouest à Seattle. Et donc, ils font le voyage New York pour déménager. Et pendant le voyage, ils ont l'idée tous les deux de créer Amazon. Et sur leur ordinateur, ils font le business.
Ah, mais elle est partie prenante, en
fait. Et oui, et tout ça. Et le pire, c'est que ça a été écrit dans leur biographie commune. Je vous cite des passages. J'étais là quand il a écrit le business plan d'Amazon. J'ai travaillé pour lui, etc. Donc apparemment, vous avez raison, elle est légitime à récupérer la moitié. D'ailleurs, il suffisait de lire le communiqué pour annoncer ce divorce pour se rendre compte que tout cela était très bien ficelé. Je vous en lis un petit passage. Nous avons décidé de divorcer, de poursuivre notre vie comme amis et nous envisageons un futur merveilleux en tant que parents, amis et partenaires économiques.
Tout va bien, vous voyez,
il y a des milliards en jeu, donc il ne s'agirait pas de tout gâcher à cause d'un banal divorce.
En même temps, je veux bien que l'homme soit cupide par nature, mais tout de même, quand on a 65 milliards de dollars, ça suffit peut-être. Entre 125 et 65, je ne vois pas trop la différence que ça peut changer dans le mode de vie.
Vous avez raison, vous savez, à ce
niveau-là. Ouais.
Merci beaucoup Axel. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
Eh bien écoutez, deux conseils pour ce week-end. D'abord dimanche, dans Capital, désormais présenté par Julien Courbet sur M6, vous allez pouvoir découvrir une enquête sur Amazon qui va sans doute intéresser Axel de Tarlé. Plus précisément sur les invendus du géant du e-commerce où comment chaque jour des centaines de tonnes de produits neufs partent à la poubelle. Anne Le Gall vous en dira plus d'ailleurs demain matin à 7h55. Elle y consacrera sa chronique durablement vôtre à ce qui ressemble vraiment à un scandale. Et puis pour vous divertir avec une somme de pépites, c'est sur France 3 qu'il faut être. C'est ce soir à 21h pour découvrir le premier volet d'un documentaire, La télé des années 90. Céline sera ravie de réentendre ça.
On l'a quitté une minute, même pas.
Je mets avec le gosse parce que je crois qu'il est solide, il est même pas capable d'éviter une connerie. Et quand j'ai une connerie, c'est parce que j'arrive pas à dire une bavure.
Il m'a tendu les mains, il avait qu'à lui passer les menottes.
Mais dis donc, tu vas pas nous faire une crise de nerfs. Faut pas jouer les gonzesses quand on se prend pour un cow-boy.
Même quand ça vous fait plaisir.
Maro Jeannin,
mais
moi
oui,
je
ne
pas jouer les gonzesses quand on
Navarro,
se prend pour un cow-boy.
Évidemment. Alors avec ce documentaire, année par année, tout est retracé avec les témoins de l'époque. Les animateurs comme Marc-Olivier Fogiel, Christine Bravo, Mireille Dumas, Thierry Ardisson, mais aussi les hommes et les femmes de l'ombre, dont Marie-France Brière, productrice sur Antenne 2. C'est bourré d'anecdotes et d'archives. Si vous êtes un enfant de la télé comme moi, autant vous dire que vous allez vous régaler. Le documentaire est d'autant plus intéressant qu'il évoque aussi le contexte politique et sociétal en parallèle. Et puis, je ne résiste pas.
Je ne résiste pas.
1993, Christophe de Chavannes, anime en direct l'avant-match OM Milan AC. Son invité, un supporter du PSG, Enrico Macias, et ça va pas très très bien se passer.
Il avait les boules comme ça, Macias, il n'en pouvait plus. Il s'était pris des trucs dans la tronche, des trucs, des pommes, des frites, des merguez.
J'ai reçu une pomme dans la gueule, excuse-moi. Hein.
Je rends l'antenne plutôt. On rend parce que c'était plus possible.
Bonjour à tout le monde, allez l'OM, bien évidemment.
Allez l'OM.
Et à un moment, il y a encore un mec probablement qui lui dit un truc genre, je sais pas, une insulte. Et j'entends le chanteur de La paix dans le monde s'arrêter, se retourner, regarder le mec et lui dire, enculé de ta race maudite. Le chanteur de La paix dans le monde, hein, quand même, je vous rappelle, les colombes blanches et tout ça.
C'est absolument réjouissant, c'est à voir sur France 3 à 21h ce soir. Il y aura un deuxième volet la semaine prochaine.
Merci beaucoup Eva Rock pour ces conseils télé. Merci Axel de Tarlé, Mickaël Darmon. Les trois fantastiques sont de retour lundi, peu avant 7h moins le quart. Céline, un dernier mot pour clore cette séquence de qualité.
Queer Center.
Merci.
Il est 6h53, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, mais plus pour très longtemps, car déjà j'aperçois sa svelte silhouette, publicité vivante des vertus du régime crétois. Nikos Aliagas s'apprête à me relayer à ce micro pour le 7-9 d'Europe 1. Deux heures d'infos avec un mot d'ordre, la précision. Précision surtout temporelle.
Les recherches se poursuivent pour retrouver un avion de chasse disparu des écrans radars hier soir en fin de matinée.
Le meilleur est à venir, le débrief de la matinale de Nikos Aliagas.
Il est 6h55, Mathieu Noël.
Eva Rock range ses stylos dans sa trousse, Céline écrase une larme. L'heure est venue pour Debout les copains de céder la place au 7-9 d'Europe 1. Heureusement, vous le savez, le meilleur est à venir. le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Et ce matin, je vous demanderai d'emblée d'éloigner les enfants du poste. Car je démarrerai bille en tête par un moment de radio entre Nikos, Céline Dacosta et Céline Kalman, qui m'a personnellement beaucoup touché, car il m'a rappelé le téléfilm érotique d'M6 du dimanche soir des années 90. Il se passe pas grand-chose dans le téléfilm érotique d'M6, mais c'est sacrément excitant quand même. Ça commence toujours avec un photographe un peu pervers qui fait poser une femme, puis une autre femme entre en jeu.
Regarde-moi.
Je suis tellement pas photogénique, c'est horrible.
Je trouve pas.
Non, c'est une réalité.
Je trouve très jolie en photo. Hmm, je trouve très jolie en photo.
Mais non, si je pose.
Non, mais
que...
après, c'est toi, c'est ton.
Ah non, mais.
Ton regard.
Deux femmes qui se
tiennent la main. Ah oui, les dimanches soirs d'M6, c'était quelque chose. Et ce n'est pas Laurent
c'est des
Cabrol.
Films érotiques, on ne voyait rien.
Bah oui, c'est ça, mais c'était excitant quand même.
Suggéré.
Et ce n'est pas Laurent Cabrol qui nous contredira. Laurent qui a hérité hier d'un nouveau surnom. Alors, combien vous a-t-il soudoyé pour cela? En tout cas, Nikos, vous vous employez à lui faire une bien flatteuse réputation en l'appelant désormais.
Le baromètre sur pied, Laurent Cabrol.
Le baromètre sur pied, qui hier, on va le dire, s'est fait peur. Hein. Alors qu'il n'y a pourtant aucune raison, car son efficacité et sa précision météorologique sont légendaires.
Un à Lille, à Toulouse et Cognac, quatre à Montélimar, à Marseille et à... Et à voilà.
À voilà.
Voilà, très belle ville. Hein. Malgré cette exactitude qui est sa signature, Laurent Cabrol a eu peur, l'espace d'un instant, que son métier de prévisionniste soit remis en cause par une innovation technologique que nous présentait notre expert high-tech Anissé Mbida. Heureusement, on a très vite compris, vu que précisément on ne comprenait rien à ce que racontait Anissé, que cette innovation n'allait pas faire de l'ombre à notre Lolo.
On parle de quoi ce matin, Anissé?
Oui, une innovation qui permettra d'avoir des prévisions météo encore plus précises et encore plus, parce que là on pourra avoir des météos différentes, la météo, des prévisions à différents quartiers d'un même quartier.
Et oui, okay. Qui permettra ça d'avoir arrive. Des infos de météo, de prévision dans d'autres quartiers. Oui, je crois que c'est bon Lolo, la machine n'est pas prête de supplanter l'homme. Enfin, les amis, je terminerai hélas sur un petit bémol pour votre matinale. Nikos, en effet, à toujours vouloir faire le lien, trouver des ponts entre les différents sujets, les différentes équipes, les différentes séquences de la matinale, on en vient parfois à commettre des bourdes. Préjudiciables, surtout quand elles concernent la doyenne de cette station, la célèbre Julie d'Europe 1. Ainsi, hier, vous avez tenté de faire le lien entre le sujet sur Tintin et Milou et la revue de presse incarnée par Nicolas Canteloup et Julie. D'accord. Mauvaise idée.
Eh ben lui, c'est le Tintin de l'humour. Nicolas Canteloup arrive, sans Milou.
Avec Julie.
Évidemment, je parlais, aucune comparaison possible.
Bah non.
J'ai fait la boulette.
Il a fait la boulette.
Enfin, c'est moi qui l'ai fait.
C'est vrai, c'est lui qui l'avait fait.
Ouais, non,
c'est lui qui en a assumé les conséquences.
Non, c'était un hommage, c'était plus un hommage.
Merci, mon cher Mathieu.
Bonne journée, mon cher Nikos.
Vous n'avez pas la houppette de Tintin?
Non, mais avec le casque, parfois je l'ai à la fin de l'émission. Quand j'enlève le casque,
je vous souhaite un bon week-end et je vous remercie pour cette semaine, ce passage d'antenne avec Eva Rock, qui est mythique désormais.
Ah oui.
Au moins.
Le passage d'antenne.
Europe 1.
5h, 7h. Mathieu Noël.